Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Très bien. On apprend que Louis Robert, agronome au ministère de l'Agriculture, a pris sa retraite il y a quelques jours à peine. Et dans une entrevue qu'il donne à Radio-Canada, il fait un peu le point, évidemment, sur ce qu'il a vécu comme employé de l'État, employé qui a sonné l'alerte, d'abord à l'interne et ensuite sur la place publique, des mesures disciplinaires qui ont été déclenchées contre lui, son retour au travail. Bref, une fin de carrière assez mouvementée. Louis Robert, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Donc, vous êtes maintenant à la retraite, puis ce que je trouve bien intéressant dans les propos que vous tenez, vous dites, les employés de l'État, les fonctionnaires, quand ils sont témoins de quelque chose qui n'a pas d'allure ou d'anormal, ils ont l'obligation quand même de le dire, de rapporter les situations.
Oui, bien, il me semble que ils ont l'obligation d'en parler. Selon moi, une obligation morale, à tout le moins, là, parce que c'est évidemment, ça dépend aussi de la gravité de la situation. Mais il me semble que si on se tait devant quelque chose qui nous apparaît inacceptable ou contre l'intérêt public, ben on devient par le fait même un peu complice de ça. Et plus l'enjeu est important, ben plus ce mutisme-là est grave.
Mais avez-vous l'impression que on est à l'aise de le faire, qu'on a l'écoute, qu'on a les outils nécessaires, sans aller sur la place publique tout le temps, là, mais strictement à l'interne pour dire « Hey, ça marche pas ».
Non, c'est ça, c'est exactement ça. C'est non seulement il n'y a à peu près pas de sortie publique pour dénoncer ces situations-là, mais le système fait en sorte on n'est pas, non seulement on n'est pas encouragé, mais on nous interdit quasiment dans certains cas de parler de certains sujets qui nous apparaissent importants pour l'intérêt public et problématiques à la fois pour le MAPAC. Donc, il y a aussi ce système-là qui encadre les professionnels, en tout cas au MAPAC, là. Je peux parler du MAPAC, je le connais, là. On n'est pas encouragé à en discuter alors qu'on devrait. On devrait en discuter entre nous à l'interne. Mais ces sujets-là sont évacués des ordres du jour des réunions du personnel.
Mais c'est important ce que vous dites parce que vous avez quand même pris votre courage à deux mains, là, puis vous avez dit voici ce qui, d'après moi, ne marche pas, puis une consommation abusive de pesticides, puis il y a des façons différentes de le faire. Vous l'avez indiqué à l'interne, ça n'a pas avancé. Vous êtes sorti, vous avez été victime de représailles. Avez-vous l'impression que le traitement qu'on vous a infligé a fait peur aux autres en disant « moi, j'ai pas envie de vivre ça, là? »
Probablement. Probablement que c'est un facteur, en effet. Certaines personnes, certains intervenants prévoyaient, avec l'adoption de la loi en 2017 concernant les lanceurs d'alerte, qu'il était pour en avoir plusieurs, alors que moi, j'étais, à ma connaissance, le seul et unique là, dans le MAPAC. Et il n'y en a pas eu d'autres par la suite, là. Et si on regarde l'horizon, on élargit l'horizon à plus que le MAPAC, mais toute la fonction publique, il n'y a pas eu une recrudescence des alertes, là, ça c'est sûr. Donc, je pense que oui, puis en effet, les gens évitent d'en parler un peu de mon histoire aussi à l'interne, et puis ça les a un petit peu, peut-être un peu traumatisés. Là.
Quand vous êtes revenu, comment ça s'est passé avec l'employeur? Est-ce qu'ils vous ont mis dans un coin loin des autres? Est-ce que vous avez le droit à faire votre travail normalement? On vous confiait les mêmes mandats. Ça a été quoi le retour?
D'abord, il faut savoir aussi que le retour, la réintégration a été déclarée publiquement, mais n'a pas été automatique. C'est-à-dire qu'il y a eu un petit peu de réticence au départ. Mais une fois que j'ai été réintégré dans mes fonctions exactement au même bureau, ça s'est bien passé, même beaucoup mieux passé que je le pensais. Sauf que, et en plus, on m'a donné des responsabilités et des dossiers importants aussi. Donc, j'ai un témoignage de confiance certainement de l'administration. Mais disons que le sujet, puis ce qui s'était passé pour mon congédiement n'a pas refait surface. On a évité d'en parler. C'était un peu un sujet tabou. Et plus on montait, plus je montais dans la hiérarchie, plus c'en était un, là.
Mm-hmm. Avez-vous le droit
au niveau de mes collègues à moi, plus c'était proche de moi, évidemment, plus c'était, il n'y avait aucun problème, là.
Est-ce que l'employeur a organisé un party de retraite?
Après, ça a été souligné jeudi passé.
OK.
Et de belle façon aussi. Et donc, mais comme je vous dis, je sens pas, en même temps que c'est pas un sujet qu'on aborde facilement, au niveau local, à Saint-Hyacinthe, il n'y aura pas vraiment de problème, puis ça va me faire plaisir s'il y a quelque chose, de souligner mon départ aussi avec mes collègues. Je pense pas qu'à Québec, il y a nécessairement une grande fête
sur
ce sujet-là.
Non, j'imagine. Dites-moi, quelqu'un qui vous écoute ce matin, employé du MAPAC ou d'un autre ministère, là, puis qui voudrait, constate des situations comme vous l'avez fait avec les pesticides, là, quel conseil vous lui donnez?
Moi, je crois encore que la loi, si elle était appliquée, la loi de 2017, puis la loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles, là, à l'égard d'organismes publics, ça c'est son nom complet, j'appelle ça la loi, c'est le lanceur d'alerte. Si cette loi-là est appliquée, conforme à ces articles, un lanceur d'alerte, quelqu'un qui est témoin d'une situation semblable à ce que j'ai vu, devrait suivre la directive de la loi. Et il y a deux options auxquelles il fait face, c'est soit le dénoncer à l'interne ou le dénoncer au protecteur du citoyen. Pour l'instant, je recommanderais peut-être à personne d'aller au protecteur du citoyen, parce que l'option A que j'ai utilisée, moi, a montré des failles, des lacunes. Donc, mais c'est en voie apparemment là, que la protectrice a été claire dans son rapport que le MAPAC et tous les organismes publics devaient s'assurer d'appliquer la loi et de renforcer les mécanismes protégeant les lanceurs d'alerte. Mais pour l'instant, à ma connaissance, c'est pas encore tout à fait corrigé, donc je recommanderais d'aller au porte-parole du citoyen et je recommanderais aussi à la personne de garder ça pour lui ou pour elle, là, pour les premières étapes, en tout cas absolument, absolument confidentielles, oui.
Louis Robert, merci d'avoir été là, puis merci pour ce que vous avez fait, puis bonne retraite.
Merci beaucoup, M. Bonne journée.
Louis Robert, agronome au ministère de l'Agriculture, le MAPAC, qui a pris sa retraite et qui amène cette réflexion. Quand vous êtes un employé de l'État, puis c'est vrai, le réseau de la santé, le réseau de l'éducation, on comprend qu'on n'encourage pas tellement la dénonciation, que la loi du silence est toujours celle qui est mise de l'avant. Comme je le disais souvent, le nombre de courriels que je reçois de personnes qui œuvrent dans le secteur public puis qui me disent, en m'écrivant, dites pas mon nom, faites pas allusion, je veux pas être identifié, m'en perdre ma job, j'aurai de la pression. C'est hallucinant. Puis des gens là, qui, souvent, dans une première étape, ont voulu régler ça à l'interne. C'est pas tout le monde là, qui veut être dans les médias. Puis quand on voit que ça débloque pas, que c'est au contraire là, une fin de non-recevoir, ben on se tourne vers des médias en espérant que ça va faire changer des choses.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Je pense que depuis quelques jours, nous sommes tous sous le choc de ces images qui nous arrivent d'Ukraine, de Boutcha, fosse commune, des cadavres trouvés dans la rue, des gens qui ont les mains liées dans le dos, des corridors humanitaires dans d'autres villes. On peut penser à Mariupol où ça semble extrêmement difficile. On évacue peu de gens à la fois. Une guerre qui en est à sa 40e journée, qui fait des morts, qui fait des blessés. Et Médecins sans frontières se déploient sur le terrain, organisent des transferts de patients de l'Est vers l'Ouest. Donc, on veut éloigner le plus loin possible ces patients des zones de combat. Docteur Joanne Liu, l'ancienne présidente de Médecins sans frontières, pédiatre urgentiste à Montréal et sur place actuellement. Docteur Liu, bonjour.
Bonjour.
Peut-être nous dire dans quel coin de l'Ukraine vous êtes et quel est votre mandat, votre mission actuellement?
Bien, moi, je suis basée sur Dnipro, qui est dans l'est du pays, et donc est à l'est de Kiev. Et on est quelques centaines de kilomètres là, des points très chauds. Et donc, mon mandat, c'était de voir comment on pouvait soutenir au niveau des soins à l'est. Et là, on se rend compte que les hôpitaux qui sont près des lignes de front sont en pleine capacité. Et il fallait comme désengorger les hôpitaux. Et donc, on est venu avec l'idée, en collaboration avec les médecins ici, de dire ben comment on pourrait faire une éducation, mais de assez grand volume. Et donc, on a créé ce train médicalisé pour pouvoir faire une évacuation de plusieurs patients à la fois.
Pourriez-vous me dire là, concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un train qui est aménagé pour des transferts? Là? Qu'est-ce qu'on doit faire?
Donc, il y a une première partie, c'est qui qu'on sélectionne. Étant donné que là, c'est notre premier train qu'on a aménagé, qui n'est pas un train de soins intensifs, c'est on fait des transferts de patients qui sont stables. Donc, ils ont des pathologies, notamment le premier transfert qu'on a fait il y a quelques jours, c'était beaucoup de patients avec des fractures ouvertes, avec fixateurs externes, mais hémodynamiquement stables. Ça veut dire que la tension artérielle est stable, ils n'ont pas besoin d'oxygène. Ils ont besoin, par exemple, de soins de médecins et d'infirmières, parce qu'aussi, ces transferts-là, ça prend une certaine durée. Pour partir de, par exemple, Zaporizhzhia, où est-ce qu'on était, jusqu'à Lviv dans l'Ouest, c'était 20 heures de train. Donc, c'est une équipe médicale, un patient qui est stable, avec blessure, qu'on éloigne de la ligne de front pour, un, le protéger, deux, désengorger les hôpitaux, trois, lui permettre d'avoir des soins avancés pour ses blessures.
Vous me parlez de patients donc stables. Qu'est-ce qu'on fait avec des patients qui sont instables, des patients qui ont besoin de soins plus importants, de soins intensifs?
Oui, donc ces patients-là sont toujours dans les hôpitaux. Il y a des soins intensifs dans les hôpitaux, des hôpitaux qui sont régionales, qu'on appelle. Et éventuellement, dans les prochains jours, max quelques semaines, nous, on a aussi un train qui est en train de se faire aménager en Pologne, qui va avoir des lits de soins intensifs. Et à ce moment-là, on va pouvoir transporter des patients instables d'un point A à un point B.
Est-ce qu'il y a des difficultés d'approvisionnement? Je pense à bien sûr, les médicaments, je pense à des fournitures médicales. Est-ce que vous avez tout ce dont vous avez besoin?
On a en partie ce dont nous avons besoin, mais on est toujours en consommation permanente de nos ressources. Donc, on fait venir du stock là, régulièrement. Il y a des choses qui sont plus en demande que d'autres, notamment si on regarde juste vu qu'il y a le nombre de blessés, tout ce qui est bandage, qui est ressources pour arrêter justement des saignements, tout ça, ben on est en besoin de ça, des choses assez simples. Mais il est important, là, je pense qu'on est tous dans un état encore de choc, mais on sait qu'il va peut-être avoir un resserrement dans les prochains jours et on s'attend peut-être d'avoir beaucoup d'afflux de patients. Donc là, on se prépare un peu partout à l'accueil de patients en grand volume dans différents hôpitaux. Et donc, c'est une des raisons pourquoi qu'on accélère l'évacuation des patients de l'est à l'ouest.
Vous avez une expérience plus que pertinente du terrain en cas de conflit, parce que ces patients-là qui vous arrivent avec des blessures physiques sont aussi des êtres humains qui ont vécu des choses horribles ou qui ont été témoins ou qui sont anxieux. C'est un pays qui est quand même en guerre. Comment vous combinez les deux, c'est-à-dire soigner quelqu'un pour une fracture puis prendre charge de quelqu'un aussi qui vit des moments difficiles?
Absolument, puis merci de le mentionner, M. Marquand. Oui, ces gens-là, ils ont été extrêmement éprouvés au niveau physique, mais au niveau santé mentale, émotion. C'est extrêmement prenant parce qu'ils nous racontent leur histoire. Et notamment, il y avait une patiente qu'on a évacuée il y a quelques jours. Et puis, elle m'a dit, il faut m'évacuer. J'ai eu une blessure au niveau du visage. J'ai perdu mon œil droit. Je veux qu'on me refasse belle comme j'étais avant pour mon mari, pour mon enfant. Et c'est ça aussi que on essaie de faire, c'est de leur donner accès à un niveau de soins avancé de chirurgie reconstructive et de chirurgie plastique éventuellement. Donc, on espère aussi qu'on va être capable d'acter cette haute étape-là, soit dans le pays ou soit à l'extérieur du pays.
On a eu, évidemment, des rapports de presse montrant que certains hôpitaux auraient été touchés, dans certains cas, des cliniques. Est-ce que là où vous êtes, vous vous sentez en sécurité? Est-ce qu'on respecte l'organisme pour lequel vous travaillez ou s'il y a toujours des inquiétudes là, qui planent?
Oh, l'inquiétude est permanente. L'inquiétude est permanente et c'est quand même quelque chose à gérer comme stress. Il y a des alertes rouges régulièrement qui nous avisent qu'il faut aller se trouver une protection dans un sous-sol. Et donc, présentement aussi, il y a toute une préparation par rapport à aménager des urgences dans des sous-sols d'hôpitaux.
Pour être capable de s'y réfugier au besoin, donc.
Bien, de s'y réfugier, puis aussi pouvoir continuer à offrir des soins aux gens qui vont être blessés.
Parce que c'est clair que, bon, il y a beaucoup de gens blessés, on comprend, il y a des gens qui sont en déplacement, il y a des gens qui veulent revenir en croyant que leur ville a été libérée. Donc, vous devez conjuguer tout ça, puis d'essayer de comme je le disais, déplacer des patients de l'Est vers l'Ouest, tout en souhaitant que l'Ouest ne soit pas à nouveau peut-être victime d'attaques.
Absolument. Donc, ça fait quand même partie... des possibilités et donc c'est toujours en fait des solutions temporaires et on cherche toujours des meilleures solutions, mais oui, c'est une espèce de vase communicant où on est en train d'augmenter une capacité d'accueil au niveau de l'Est et donc on envoie des patients dans l'Ouest, mais ça veut pas dire que ça va marcher sur la durée, parce que si il commençait à avoir d'autres attaques au niveau de l'Ouest, ben il va falloir aussi déplacer encore plus.
Parlez-moi un peu en terminant de l'expérience que vous vivez. Vous avez fait d'autres situations extrêmement complexes, à risque. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent dans ce que vous vivez actuellement en Ukraine par rapport à d'autres situations?
Oui, ben je pense que ce qui est différent, c'est que un, on a vu beaucoup, beaucoup de photos, beaucoup d'images avant, donc ça, je pense que ça crée une certaine anxiété d'une part, mais je crois aussi que la menace de missile qui peut nous tomber dessus n'importe quand, en étant dans certains endroits qui pourraient être de possibles cibles, comme les hôpitaux, c'est quelque chose qui demande une certaine gestion au niveau de notre anxiété, notre stress puis notre bien-être.
Docteur Liu, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là. Puis je demande aux auditeurs d'aider Médecins sans frontières, justement, pour pouvoir vous donner le maximum d'appui avec du matériel et tout ce qu'il faut pour faire votre travail. Merci, prenez soin de vous.
Merci, au revoir.
Au revoir, Docteur Joanne Liu, l'ancienne présidente de Médecins sans frontières, pédiatre urgentiste à l'hôpital Sainte-Justine. Parfois, on se demande comment aider. Ben ça, c'est un bel exemple de gens qui viennent de tous les coins du monde pour tenter d'apporter des secours puis aussi réconforter les gens qui sont blessés physiquement et moralement par cette guerre.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
C'est aujourd'hui, donc lundi, 21h, que sera présenté à UNITV un documentaire sur les soins palliatifs. C'est sûr que le premier réflexe que vous avez, c'est de dire « ouais, ça doit pas être très, très jojo ». Pour l'avoir regardé, évidemment, on parle de la mort, mais aussi, je dirais, avec un ton qui est rassurant, un ton qui est aimant, et de voir des gens qui s'investissent dans ces derniers moments de la vie d'une personne, c'est quand même quelque chose. Le titre, c'est « Merci, au revoir, je t'aime ». C'est un film de Nathalie Roy. Nathalie, bonjour.
Bonjour, Paul.
D'abord, l'idée d'aller filmer dans cette maison de soins palliatifs, la Source Bleue, là, qui est à Boucherville, c'est arrivé comment?
C'est arrivé il y a 5 ans, en fait, quand ma belle-mère est décédée à cet endroit-là. Elle est restée quelques jours à peine, mais on a tout de suite vu le changement avec l'hôpital. Parce que quand on arrive dans ces maisons-là, il y a un sentiment d'apaisement incroyable, autant pour le patient que pour toute la famille. Et là, j'ai découvert vraiment des gens qui gravite autour du patient, mais aussi autour de la famille. Vive la fin de vie. Parce que on pense souvent que ces maisons-là sont des mouroirs ou que c'est triste. Et vous l'avez dit en entrée de jeu et je suis contente que vous le disiez parce que moi, je veux faire quelque chose de lumineux. C'est des endroits qui sont chaleureux où on va vivre sa fin de vie. Et ça, c'est bien important. On ne va pas là juste pour mourir, mais pour profiter des derniers moments. Alors ça, c'est un des éléments qui est arrivé. Et puis ensuite aussi, avec toute la pandémie, on a tellement vu de gens mourir dans la souffrance, seul, angoissé, que je me suis dit que ce film-là est encore plus important parce que oui, on peut mourir dans la dignité, mais aussi dans l'apaisement, dans le calme et même parfois dans la joie, quelques moments, ça peut arriver.
Ce qui m'a frappé aussi, on peut s'en douter, c'est que les gens qui arrivent à des maisons de soins palliatifs comme ça sont pas tous rendus à la même étape. Il y en a qui acceptent ce qui leur arrive, il y en a d'autres qui l'acceptent pas. Il y a des gens qui ont besoin d'être rassurés parce qu'ils ont l'impression d'abandonner leurs proches. Tout le monde n'arrive pas là à la même étape quand on est rendu à ces moments-là de fin de vie.
Non, absolument. Et on a le cas de Claude Laurier, qui est un homme de 53 ans. On peut s'imaginer qu'à 53 ans, on reçoit pas la condamnation à mort de la même façon que quand on a 80. Et ce monsieur-là, on l'a suivi vraiment de A à Z, donc au tout début quand il est arrivé, où il y avait encore un peu de déni, il y avait encore un peu, oui, de colère, de difficulté à accepter que ça nous arrive à nous. Et c'est ça le rôle de toute l'équipe aussi. C'est pas juste, on fait pas juste donner des médicaments, on fait pas juste donner des soins, mais on va accompagner dans le cheminement, que ce soit spirituel ou pas, hein. Ça vraiment, là, ça appartient à chaque personne, mais avec l'aide des travailleurs sociaux qui sont là, des infirmières, les gens vont cheminer à travers leur parcours. Et puis, il y a un autre cas aussi qui est dans le documentaire, qui est une dame de 68 ans qui, elle, est malade depuis 8 ans. Donc, on peut s'imaginer aussi que la souffrance, ça devient pénible, là. Ça devient difficile. Et ce qui est difficile aussi pour ces gens-là, c'est qu'ils doivent toujours compter sur leurs proches pour prendre soin d'eux. Donc, on est à la maison. Les sœurs de la dame dont je vous parle, Madeleine, sont là, sont présentes, mais elles sont toujours sollicitées pour de l'aide. Et Mme Deschênes, ce qu'elle voulait en allant à la Source Bleue pour vivre ces derniers moments, c'était de dire, ben moi, ma famille va venir me voir, mais je serai pas obligée de leur demander de faire ci, de faire ça pour moi. Je vais pouvoir profiter des derniers moments.
Pourquoi avoir divisé le titre en trois volets? Merci. Au revoir, puis je t'aime.
Oui, en fait, c'est la travailleuse sociale Sophie Latour qui nous a inspiré ce titre-là parce qu'on cherchait quelque chose de significatif. Et ce que Sophie dit quand une personne va décéder, c'est qu'on a trois choses à lui dire. On lui dit merci pour tout ce qu'elle a représenté dans notre vie. On lui dit au revoir, et là, ça va dépendre un peu de nos croyances, soit parce qu'on va la revoir plus tard, on ne sait trop où, ou parce que c'est plus un adieu, mais on marque le départ. Et je t'aime parce que quand on part comme ça, quand on vit ces derniers moments, tout ce qu'on veut auprès de nous, c'est de l'amour, c'est de sentir que nos proches sont là, qu'ils nous aiment. Et puis, on aurait pu ajouter aussi pardon, parce que parfois aussi, il y a des cas qui se règlent, hein, il y a des histoires qui vont se régler dans les dernières semaines de vie. Et là aussi, les gens de ces maisons-là sont là pour accompagner les patients dans leur démarche.
C'est sûr que les gens, à la base, quand arrive la fin de vie, ne veulent pas souffrir. C'est une des priorités. Il y en a qui vont opter pour l'aide médicale à mourir, d'autres qui vont opter pour des soins de fin de vie, des soins de confort, des soins palliatifs. Comment t'as vu ces choix-là être pris, des gens qui disent qu'ils pourraient aller vers l'aide médicale à mourir, mais qui ne veulent pas y aller?
Ça m'a beaucoup surpris. Ça, c'est de la part de Claude Laurier, justement, ouais. L'homme de 53 ans, parce que moi, mon père, il faut savoir qu'en 2019, il a demandé l'aide médicale à mourir. Il était atteint de fibrose pulmonaire. Et pour nous, ça a été vraiment une fin de vie assez exceptionnelle et une mort aussi tout en douceur. Donc, Claude a demandé l'aide médicale à mourir, mais il n'était pas bien avec ça. Je pense qu'il y a des gens qui, l'idée d'avoir une heure arrêtée bien comme il faut, avec un processus, des documents, en tout cas, lui, il voulait pas de ça. Et c'est là que le personnel extraordinaire de la maison entre en jeu, c'est que ils ont compris à quel point c'était souffrant, parce que pour cet homme-là, il souffrait, oui, physiquement, mais il souffrait beaucoup psychologiquement parce que, justement, il ne voulait pas quitter ses proches. Et là, le docteur José Murphy a proposé à Claude une autre alternative, c'est-à-dire tout doucement d'arrêter la médication. Donc, ça va faire en sorte que la maladie va prendre le dessus et éventuellement d'aller vers une sédation palliative. Donc, la sédation palliative, c'est sûr qu'il y en a qui vont trouver que ça peut ressembler un peu à l'aide médicale à mourir, mais c'est pas ça. C'est plonger dans un coma, la personne, tout doucement, puis elle va partir. Ça peut prendre deux jours, deux semaines, mais ça se fait tout doucement. Et la personne peut être encore consciente aussi pendant quelques jours. Alors, c'est le choix qu'a fait Claude Laurier. Donc, il est parti un dimanche soir. Mais pour lui, c'était une façon de dire, ben, je vais peut-être être encore là un petit peu, quelques jours encore avec vous inconsciemment. Mais d'arrêter ça, fret, net, là, fait que c'était pas pour lui.
À voir ce soir. Merci beaucoup, Nathalie.
Merci beaucoup, Paul. Bonne journée.
Bonne journée. Nathalie Roy, merci. Au revoir, je t'aime. Présenté 21h. Puis après ça, il y a évidemment ce qu'on appelle du rattrapage là, sur Unitv.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Notre invité ce matin nous présente un roman graphique. C'est pas n'importe quel exercice. Sur la route de Bachot. Dany Laferrière, bonjour.
Bonjour, Paul Arcand.
D'abord, pourquoi faire un roman graphique? L'idée vient d'où? C'est quand même une démarche, là.
Oui, assez exceptionnelle, assez rare. Et ça vient de la fatigue.
La fatigue?
La fatigue. J'étais très fatigué après deux événements majeurs. Et j'avais eu en 2009 un prix littéraire, et le prix Médicis, dont la dernière fois qu'on l'a eu au Québec, c'était il y a 47 ans avec Marie-Claire Blais et son magnifique livre « Une saison dans la vie d'Emmanuel ». Donc j'étais fêté ici au Québec, en France et en Haïti. Et quand c'est pas souvent que ça arrive, et tous les yeux sont tournés vers vous, et tous les gens qui écrivent, tous les gens qui s'intéressent à la chose écrite et vous parlent, et vous trouvez dans l'obligation, moi c'est une obligation pour moi, de répondre aux gens qui m'écrivent. Et donc ça m'avait épuisé. Et je suis allé en Haïti, et c'était juste après, 3 ou 4 mois, le 12 janvier et 2010, le tremblement de terre de Port-au-Prince. 300 000 morts. Et comme j'étais la personne qui était sur l'affichage électronique, tous les yeux se sont tournés, cette fois-ci pas pour une fête, mais pour une tragédie vers moi, pour que je puisse interpréter ce drame qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas décrire, le tremblement de terre, surtout quand c'est votre ville natale qui part en poussière. Mais là encore, c'est une obligation. Quand vous voulez devenir la voix populaire, la voix de ceux qui n'ont pas de voix, il faut à certains moments et prendre ça en charge. C'est un devoir. Je l'ai fait et j'étais très épuisé. 3 ans plus tard, un autre événement. J'entre à l'Académie française. Alors là, l'Afrique entre puisque je viens après et Léopold Sédar Senghor, et ça c'est tout le monde francophone. Et je ne savais plus quoi faire. Je faisais des rêves. Et dans les rêves, j'étais couvert de crabes qui me pinçaient. Et je me réveillais, je me levais dans le rêve. Et les crabes tombaient et faisaient un son métallique sur le carrelage. J'avais l'impression d'être dévoré de partout, d'être par des gens qui me voulaient du bien, en plus, et qui à chaque fois me demandaient une petite chose minuscule que je ne pourrais pas refuser. Mais quand ça fait des milliers, vous devez savoir ça. Et ça devient trop. Et un jour, j'ai mis une feuille et j'ai commencé à dessiner, moi qui n'avais jamais dessiné. Et j'ai senti une paix, une sérénité, parce que pour la première fois, je touchais une feuille de papier sans idée d'écrire un livre. c'était juste un enfant qui jouait avec des couleurs. Et au fur et à mesure que ça se développait, ben, disons, le réflexe chez tout individu qui est habitué à publier est arrivé. Je me suis dit, il y a là peut-être la possibilité de changer de forme et d'aller dans quelque chose de plus ludique. Et comme je ne suis pas un bon dessinateur, disons à l'époque, là on voit ça s'est amélioré un peu, donc je me suis dit, je vais écrire de bons textes à côté, ça je sais faire, et qui pourraient suppléer, parce que j'ai vu beaucoup de livres avec dessins très bons, mais les textes ne sont pas si bons.
Mais vous parlez donc de Sur la route avec Bachaud, c'est un auteur d'une autre époque que la vôtre, insulaire comme vous aussi, japonais. Et dans ce roman-là, vous êtes à la fois dans des événements très contemporains et aussi dans des réflexions beaucoup plus globales, si on veut.
Oui, c'est cela. Je voulais faire un livre un peu universel, ne pas être dans le local, parce que j'avais envie d'ouvrir la fenêtre, de regarder dans le monde, d'aller voir. Et d'abord, si j'étais capable, si j'en avais l'autorité. Vous savez, le monde est séparé. Il y a des gens à qui on dit, vous avez un petit espace, par exemple, vous êtes ouvrier, vous avez votre usine, faites votre vie, essayez d'envoyer vos enfants à l'école si c'est possible, faites-leur un bon avenir, mais c'est votre place. Il y a des gens à qui on dit autre chose, et il y a des gens quand même qui ont le droit de circuler et d'avoir une opinion sur tout ce qui se passe. Moi, naturellement, je n'avais pas cela. Vous savez, j'ai vu des chiffres qui disent, c'est 5 générations pour toute l'Amérique latine, c'est près de 310 ans. Pour passer de la pauvreté à la classe moyenne. 310 ans. 310 ans, c'est beaucoup. Mmh. Et en France, c'est 220, 200. C'est énorme, les mouvements. C'est-à-dire, maintenant, par exemple, au point noir, de parler et de ne pas, pour qu'on ne fasse pas référence à lui comme noir, comme avoir un regard noir, et c'est assez énorme.
Mais
c'est...
vous avez des phrases extraordinaires dans le livre, j'en ai retenu quelques-unes. Vous dites, on est le matin avec les médias, on gouverne durant le jour avec les ministres et on meurt le soir avec les conspirateurs.
c'est un résumé.
Oui.
Là ça vous parle. Là,
parce absolument.
Que, parce que vous, puisqu'il faut se lever, oui. C'est ça, on est le matin. Et c'est vrai, j'ai l'impression que...
Mais tout ce monde-là de la conspiration, vous en pensez quoi?
C'est là. Et ce livre est un constat. C'est une sorte de photographie. Je n'ai pas essayé de juger ni de penser. Mmh. Ce que je vois est déjà une explication de la tragédie de notre époque. Parce que ça ne devrait pas être ça. On est avec les médias, on gouverne avec les ministres, on meurt avec les conspirateurs et demain on change de peau. Et on change de peau, carrément. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui sont dans des turbulences, comme les gens de la politique. Ils sont dans des turbulences. Moi, j'ai un respect énorme. Et souvent, je dis ça aux écrivains. J'ai dit, vous avez une petite critique, vous vous couchez par terre. Imaginez si vous avez 10 000 personnes sous votre fenêtre à dire votre nom, à vous conspuer, à brûler votre image, vous serez mort. Donc, et j'ai dit aussi une autre chose que je salue chez les gens de la politique, c'est leur capacité de faire du porte-à-porte en campagne électorale. J'aurais aimé avoir ce courage pour faire la même chose pour mes livres. Aller frapper aux portes et dire, madame, je pense que vous devriez lire ce livre.
Et voici pourquoi.
Oui, et voici pourquoi. Et non jouer à la modestie. Si vous avez pris 2 ans pour faire un livre, vous devriez le défendre aussi, comme quelqu'un qui a un projet politique voudrait le défendre. Donc, pour moi, c'est pas du tout celui qui donne des coups de poing. Mais par contre, on a beaucoup, les politiques m'ont beaucoup déprimé, les gens de la politique, surtout en Haïti, par exemple, qu'ils fassent barrage avec le bien-être du grand nombre, c'est inadmissible. Qu'ils prennent toute cette énergie pour faire quelque chose d'aussi négatif, alors là, c'est pas acceptable.
Une autre phrase, vous dites, mon intention n'a jamais été de comprendre le monde ni de le changer, simplement d'y vivre.
Je crois que c'est pour dire que le monde manque de modestie. Chaque personne que vous voyez est un gérant d'estrade de la planète. C'est bien peut-être de vouloir avoir une opinion, mais dans cette bousculade-là, on manque de modestie parce que le simplement d'y vivre, c'est tellement important. Ça veut dire d'être attentif aux détails. Simplement d'y vivre, c'est pas de vivre comme si on était une pierre au bout de la route, ni un arbre et sur le côté. C'est être attentif à tous ces minuscules détails. Et je me souviens, quand j'étais enfant, j'avais vu une sorte de lithographie de l'armée napoléonienne qui passait au loin sur la plaine et de voir un paysan assis sous un arbre en train de regarder cette armée qui passe et avec tous les espoirs d'une conquête et qui revient battu. Lui, il n'a pas bougé. Et je crois que si on peut voir l'image sans voir le paysan, mais c'est lui qui est pérenne, c'est lui qui reste. Et c'est lui qui... la vie, c'est lui. Parce que finalement, c'est à cela qu'on va arriver, quelqu'un qui plante un arbre.
Daniela Ferrière, merci beaucoup. On pourra en parler pendant des heures, mais c'est fascinant de s'arrêter à chaque phrase que vous avez écrite, accompagnée. Et c'est vrai que vous êtes pas mal en dessin quand même.
Eh bien, merci.
Merci d'être venu.
Eh bien, merci.
Daniela Ferrière, sur la route avec Bachot, s'est présenté par Boréal. On va faire la pause et on vient après en conclusion d'émission.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Bon, bonne nouvelle, M. Price était de retour sur la patinoire hier.
Oui, s'est entraîné avec ses coéquipiers, a participé à toute la séance d'entraînement, ce qui est un signe là, qu'on va probablement le voir d'ici la fin de la saison. Il reste 4 semaines au calendrier régulier du Canadien, même qu'il n'a pas partagé le filet avec Samuel Montembeau, ce qui est habituellement la règle pour les deuxième et troisième gardiens d'une équipe. Brandon Gallagher, lui, était là. Il va probablement jouer ce soir, le Canadien qui accueille les Sénateurs d'Ottawa au Centre Bell. On a procédé aussi à la photo d'équipe, la dernière photo officielle de la saison. Il ne manquait que Jonathan Drouin parmi les joueurs sur la photo.
Bon, Chris Pronger, qui a joué quoi, 20 ans dans la Ligue nationale de hockey?
Oui, 20 ans, oui.
Ouais. A publié hier une enfilade de gazouilles, comme on dit, des messages sur Twitter. Puis d'entrée de jeu, il dit que 50% des athlètes, une fois leur carrière terminée, ont des problèmes financiers. Et pourtant, là, on sait que les athlètes ont au baseball, au hockey. Je pense que hockey, c'est 2 millions à peu près le revenu. Là.
Font beaucoup d'argent,
mais que souvent des mauvais placements, des dépenses un peu folles, faire plaisir à la famille et aux amis... Ben, ça crée des problèmes quand tu prends ta retraite.
Ouais, écoute, il détaille là, une série de dépenses auxquelles les joueurs de hockey font face. D'abord, il dit en partant de l'impôt, on est comme tout le monde, on paye l'impôt, et dépendamment de où tu joues en Amérique, ça varie entre 39 et 56 le taux d'imposition. Là, ensuite, tu as la part de l'agent, qui peut être à peu près entre 3 et 5 %. Et là, dans la Ligue nationale, tu as l'escrow, la fameuse fiducie, auxquels les joueurs doivent contribuer. Et puis là, après ça, ben là, il faut que tu te loges, il faut que tu loues, t'achètes une maison dans la ville où tu vas jouer. T'as également, bon, là, après ça, si t'as besoin d'un entraîneur privé, un nutritionniste, enfin, un paquet de services connexes, là, ben ça, faut que tu payes pour ça aussi. Et tu peux facilement, là, avoir, ça peut facilement te coûter 20 000 $ par mois quand t'es un joueur de hockey. Puis quand t'es jeune, ben, toi, tu penses que l'argent va couler à flot pendant ta vie. Là, à un moment donné, ils ferment le robinet, puis c'est terminé. Et on va aller parler de ça avec Vincent Danfous, qui a joué. Je pense qu'on peut dire que Vincent a fait de l'argent pendant sa carrière de joueur de hockey. Il a réussi son après-carrière en affaires. Et il a été mêlé à des dossiers comme ça au sein de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Salut, Vincent.
Salut, Alain. Salut, Paul.
Salut.
D'abord, Vincent, quand tu entends le chiffre de 50%, est-ce que tu es d'accord avec ça?
Ben, c'est une estimation que Pronger a faite, puis moi, je peux pas vérifier ça. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont des difficultés financières, mais je peux pas dire à quel pourcentage.
Tu me disais hier, dans une conversation qu'on a eue, que tu as eu, toi, durant ton séjour au sein de l'Association des joueurs, à remettre de l'argent aux joueurs. Et tu me disais, il y a des joueurs, là, on leur annonçait ça, puis ils se mettaient à pleurer au téléphone, là.
Ben c'était un de mes mandats quand j'ai travaillé un an et demi à l'Association des joueurs après ma carrière. Puis on avait un surplus accumulé. À ce moment-là, on venait de s'entendre avec la Ligue nationale pour une nouvelle convention collective. Et, depuis 89, on accumulait de l'argent à l'association avec les ventes de différents produits, là, des produits dérivés. Et moi, j'ai décidé, avec les gens de l'association, de remettre le surplus de 89 à 95. Alors, j'avais à trouver les numéros de téléphone de chaque joueur qui avait joué au moins un match dans ces années-là. Et moi, j'appelais pour leur dire qu'il allait avoir un chèque qui s'en venait. Puis il y a eu des anciens joueurs qui me remerciaient parce qu'ils en avaient besoin. Puis il y en a qui étaient très émotifs aussi, qui avaient besoin d'argent, puis qui voyaient que ça tombait du ciel parce qu'ils pensaient jamais qu'il allait avoir un chèque d'association des joueurs. Donc oui, j'ai vécu ça, moi, avec certains appels des joueurs qui étaient en grosse difficulté financière.
Donc, même si on peut pas mettre de chiffres, que ce soit 50% ou autre, c'est vrai que c'est pas tous les joueurs qui ont une belle après-carrière, là.
Mais Alain, moi, je veux juste dire que les joueurs de hockey, là, la grosse majorité, c'est des joueurs intelligents. Là. Mais la réalité, là, c'est que la carrière d'un joueur moyen, c'est 4 à 5 ans. Si on retourne 20 ans en arrière, le salaire minimum, parce que la grosse majorité aussi des joueurs qui sont en difficulté financière, c'est pas des grosses vedettes, c'est des joueurs de quatrième trio, c'est des joueurs qui font près du salaire minimum. Il y a 20 ans, le salaire minimum, c'était 200 000. Il y a 10 ans, c'était 400 000 et aujourd'hui, c'est 750 000 le salaire minimum. Donc, ces gars-là sont souvent pas préparés à la retraite. C'est pas eux autres qui choisissent d'arrêter de jouer au hockey. Ils sont forcés à cause de la théorie de Darwin, parce que c'est le plus fort qui survit, puis les autres sont tassés. Fait qu'il y a beaucoup de joueurs à 25 ans qui sont tassés par des joueurs plus talentueux ou plus performants, ou il y a des blessures. Tu sais, je me souviens de Guillaume Latendresse qui est allé à votre émission, qui a conté son histoire. Il y a des commotions cérébrales, des blessures aux genoux, blessures à l'épaule. Il y a des joueurs qui sont forcés à la retraite à cause de certaines blessures aussi, fait qu'ils sont pas préparés. Souvent, ils n'ont pas d'éducation. Moi, j'ai eu mon secondaire. J'ai fini le secondaire. J'ai commencé ma carrière professionnelle à Toronto. J'avais 18 ans. C'est la réalité. Des fois, c'est que tu n'es pas préparé. Puis quand tu veux aller sur le marché du travail, ben tu n'as pas la scolarité nécessaire pour avoir des bons jobs. Donc, souvent, ce que les joueurs vont faire après un an en tournant en rond dans leur appartement, dire qu'est-ce que je vais faire, c'est qu'ils vont se lancer en affaires. Ils vont s'improviser entrepreneurs. Puis là, ils vont investir peut-être trop de leur actif dans une aventure qui est très risquée. Puis des fois, ils perdent parce que la majorité des nouvelles business, c'est difficile, c'est risqué. Et c'est souvent ce qui se passe.
Est-ce que tu as vu des cas, peut-être pas non plus, là, mais de joueurs qui ont été un peu victimes de leur entourage, c'est-à-dire des membres de la famille achètent une maison, aux parents.
Les agents.
Les cousins ont des projets d'investissement, faut que t'embarques. Comme on voit peut-être avec des gens qui gagnent à la loterie, là, soudainement, l'entourage est plein de beaux et de bons projets.
Mais pas, je dirais pas que tu te fais prendre. C'est normal. Dis-moi, là, j'ai aidé mes parents. Mon premier contrat, je faisais 90 000 à Toronto. Quand j'ai eu mon bonnet de signature, ça me fait plaisir de donner un cadeau à mes parents, tu sais. Puis c'est normal de se sentir un peu responsable, d'aider la famille, surtout si c'est dans le besoin. C'était pas mon cas, il était pas dans le besoin. Mais moi, ça me faisait plaisir. Mais il y en a certains qui vont le faire. Parce que le parent, souvent, a une grosse difficulté financière, ou leur frère ou leur sœur, ils sont responsables d'aider, mais s'il y a certains joueurs qui le font, mais ils vont jouer 4 ans. Là, ils se retrouvent à 25 ans avec peut-être 100 000 dans le compte de banque, puis c'est pas vrai qu'en 50 ans, tu es capable de vivre là-dessus. Fait que la réalité, c'est qu'on voit souvent un athlète professionnel dans la Ligue nationale comme un gars qui va faire 2 millions, comme tu l'as dit tantôt, mais il y en a qui vont jouer 3 ans à 750 000. Puis là-dessus, ils vont en rester peut-être 500 dans leur compte de banque. Ils ont 25 ans, Paul. Fait que c'est sûr que c'est difficile, sûr. Sans scolarité, sans vraiment de planifier qu'est-ce que tu vas faire après le hockey. Moi, j'ai commencé à 4 ans à jouer au hockey. J'étais cédulé à tous les jours à partir de 18 ans à Toronto. Ta pratique est à telle heure, tu manges à telle heure, tu t'entraînes à telle heure, tu as un match à telle heure. Là, tu te retrouves, tu n'as pas d'horaire. Tu te retrouves, tu as juste du temps à penser, puis à essayer de dire qu'est-ce que je vais faire, tu sais. C'est pour ça que c'est important d'être informé comme joueur pendant ta carrière, de comprendre c'est quoi la convention collective, de pas juste te fier sur ton agent, d'essayer de lire le plus possible, puis d'être informé le plus possible, puis tu vas être capable à ta retraite de prendre des décisions informées. Et même pendant moi, mes négociations de contrat, j'avais Pierre Lacroix qui était là, mais j'étais au courant de ma situation, puis j'étais en position de force, j'étais en position de faiblesse, je savais c'était quoi mes options, parce que j'avais lu la convention, je savais c'était quoi, où je me plaçais dans la négociation. important pour un joueur. J'ai un message, là, je parle à des gars, mais c'est informez-vous. T'sais, allez au meeting l'été, là, quand que l'association veut vous parler puis vous expliquer des choses, allez-y. Prenez le temps, une journée ou deux pour le faire. Malheureusement, il y a peut-être 10% des joueurs qui le font.
Merci beaucoup, Vincent.
Merci, Vincent.
Très apprécié.
Merci.
Au revoir. Salut. Vincent Danfous. Ouais. Puis Pronger dit à un moment donné, si un ami te propose un deal d'affaires, là, un contrat ou un investissement, puis qu'il a besoin d'une réponse tout de suite, là, c'est non.
C'est pas un bon deal.
C'est pas un bon deal. Dis non tout de suite, si jamais ça t'arrive.
Mais ça, le rôle, tu sais, le rôle de l'entourage, je parlais des agents. Mike Modano a investi, comment ça s'appelait, la fameuse entreprise au Texas, ça a été une faillite monumentale, Enron.
Oui.
Il a investi là-dedans, lui.
C'est une fraude, ça, Enron,
c'est
en
ça. Puis il a perdu presque toute sa fortune, lui, dans ça, là. Ça fait que.
Les Canadiens jouent ce soir.
Oui, les sénateurs d'Ottawa, Paul.
En conclusion, là, oh. En conclusion.
Oui, en conclusion. C'est pas au centre Vidéotron, ça, les sénateurs contre le Canadien.
Pas encore.
OK, je voulais juste vérifier.
Encore, c'est l'an prochain, ça.
OK, merci.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.